Émission spéciale sur les violences homophobes. En direct des cinéastes, présentée par Robin Hulin de la rédaction et Tiffany Bertrand de l'émission Intersection.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes en direct du cinéma des cinéastes du Mans. C'est une émission réalisée à l'occasion de la diffusion, ce vendredi soir, du documentaire de Mediapart, « Guet-apens des crimes invisibles », qui évoque les agressions, les violences, les humiliations et parfois les meurtres que des personnes homosexuelles subissent, le plus souvent dans des pièges tendus, à l'issue de faux rendez-vous amoureux. Ce documentaire évoque les hommes gays. Principalement, on en parlera en détail dans quelques instants. C'est un documentaire réalisé par Sarah Brett, Mathieu Magnodex et David Perrotin. Alors après la diffusion de ce documentaire, la journaliste Sarah Brett participera à un échange avec le public et elle sera avec nous en plateau dans quelques instants. Pendant une heure, évidemment, je suis accompagné de Bertrand et Tiffaine, animateurs de l'émission Intersection sur Radio Alpa, l'émission de toutes les luttes. Bonjour.
Salut Robin.
Salut Robin.
Comment allez-vous ?
Ça va et toi ?
On est content d'être là.
Merci beaucoup d'être avec nous. Donc pendant une heure, nous allons également recevoir Maître Jonathan Proust, avocat du barreau au Mans. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, nous serons avec Françoise Gambier de l'association Mancel LGBT+ homogène, partenaire de cet événement au cinéaste. C'est un entretien dans lequel vous pourrez aussi écouter des extraits de témoignages de deux victimes d'agressions homophobes, dont un guet-apens que Radio Alpa a recueilli et enregistré cette semaine. Avant ça, on démarre avec nos premiers invités. On accueille donc la journaliste et réalisatrice Sarah Brett. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Nous sommes aussi avec Maître Jonathan Proust, comme je le disais. Bonjour.
Bonsoir.
Voilà, on a un seul micro, donc ça, il y aura un petit laps de temps de temps en temps. On reviendra en détail avec vous dans quelques instants sur le système judiciaire en France, les condamnations envers les agressions homophobes. Est-ce qu'il y a des chiffres ? Qu'est-ce que révèlent ces chiffres ? Où en sommes-nous aujourd'hui ? Mais avant ça, parlons plus en détail de ce documentaire, surtout de ce travail d'enquête que vous avez mené pour réaliser Guet-apens, qui est sorti au printemps sur Mediapart. Vous estimez dans ce documentaire à 300 le nombre de guet-apens homophobes sur ces 4 dernières années, bien qu'il soit évidemment assez difficile d'établir un chiffre. Déjà, Sarah Brett, qu'est-ce qui vous a poussé à consacrer un documentaire entier, un travail de recherche sur ces crimes invisibles, comme vous le dites ?
Alors, c'est une histoire qui remonte à déjà quelques années, puisque moi, la première fois que j'ai été confrontée à un guet-apens homophobe, c'était en 2016. À l'époque, j'étais journaliste pour l'agence France Presse en Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne, et on avait été amené à couvrir un procès d'une agression qui correspond vraiment au cas de figure qu'on décrit dans le documentaire, c'est-à-dire un homme auquel on donne rendez-vous via une application de rencontre et qui, lorsqu'il se rend au rendez-vous, se voit confronté à plusieurs personnes qui l'agressent très violemment, puisque le point commun de toutes ces agressions, c'est l'hyperviolence. C'était une histoire qui m'avait particulièrement frappée et quelques années plus tard, une autre, en 2019, celle de Kevin, hein, qu'on évoque longuement dans le documentaire, encore en Seine-Saint-Denis, là, cette fois, Kevin est carrément poignardé et laissé pour mort par 3 agresseurs. Et c'est à ce moment-là que je me suis demandé, mais en fait, ces agressions, combien y en a-t-il ? Est-ce qu'il y en a 2, 3, 50, 100 ? Et quand je suis arrivée à Mediapart, j'ai soumis à mes collègues l'idée de faire un travail de fond sur ce sujet-là et d'essayer de documenter cette réalité qui était complètement invisible.
Ouais, et je trouve que ce qui est fort dans le documentaire, c'est que vous avez donné un nom en fait à quelque chose qui existe, mais qui est souvent tabouisé ou traité dans la rubrique faits divers de la presse quotidienne régionale. Et donc vous avez appelé ça des guet-apens homophobes. Et du coup, moi je voulais vous dire merci à Mediapart de nous outiller pour penser les violences contre les personnes LGBTQIA+, c'est-à-dire, on le rappelle, les personnes lesbiennes, gays, bi, trans, queer, intersexes, asexuelles et le plus pour tous les autres, y compris les alliés.
Et effectivement, c'est intéressant parce que ce qu'on a voulu faire vraiment avec ce documentaire, c'est sortir du fait divers isolé, puisqu'en fait, c'était des histoires qu'on retrouvait ça et là dans la presse quotidienne régionale. On a voulu montrer que c'était des violences vraiment systémiques et très particulières, puisque ce sont des violences préméditées, ciblées et qui visent les hommes gays ou bi. Et on a voulu vraiment faire un documentaire consacré uniquement à ce type de violences-là.
Alors justement, quand on regarde votre documentaire, on comprend que ces violences-là, elles sont pas isolées, mais bien, donc comme vous le dites, systémiques ou structurelles. En gros, ça fait système et ça se traduit entre autres par ces guet-apens. Est-ce que vous aviez conscience du système avant de commencer le documentaire ? Et comment est-ce que ça s'est imposé à vous que justement, c'était une structure ?
En fait, on a commencé, enfin moi notamment après l'affaire de Kevin, j'avais commencé à prendre contact avec des avocats qui représentent notamment des associations de lutte contre les LGBT-phobies. Et très vite, des avocats m'ont dit « Mais attendez, des dossiers comme ça, on en a plein en réalité. » Donc à partir du moment où on s'est dit « C'était pas un fait isolé », moi ce qui m'a surpris en premier lieu, c'est que j'ai trouvé ça complètement anachronique. C'est-à-dire que on était quand même à une période, le mariage pour tous avait été voté. On avait l'impression qu'on était passé dans une espèce de nouvelle ère. Et là, ces violences-là, elles nous ramenaient à une époque ancienne. Pour moi, ça m'évoquait des images d'attaques dans les parcs, dans les années 50, à l'époque où l'homosexualité était pénalisée. Et je me suis dit, en fait, ça existe encore et de manière massive. Et ça repose sur des ressorts qu'on a essayé d'analyser, de mettre en évidence. Et c'est à partir de là qu'on a pu se dire que c'était systémique.
Parce que vous avez également rencontré des agresseurs. À quels différents profils vous avez pu assister chez ces gens ?
Alors c'est très difficile parce que comme vous le disiez, on n'a pas de vue d'ensemble du phénomène. Donc encore moins de vue d'ensemble du profil des agresseurs. Et notamment parce que dans beaucoup de cas, ils ne sont jamais retrouvés. Ce qu'on a vu, c'est en fait qu'il y a des profils absolument différent. On sait que ça arrangerait pas mal de gens de se dire, parce que c'est un sujet qui est éminemment politique en réalité, que c'est des jeunes des quartiers ou alors uniquement l'extrême droite. Mais en fait, pas du tout. C'est en fait le symptôme d'une homophobie qui est très transversale, hein, dans la société, qu'on retrouve dans beaucoup de milieux, et qui est associée à une petite délinquance aussi souvent. C'est pour ça qu'on a certains agresseurs qu'on a pu interviewer dans notre documentaire, qui sont des jeunes issus des quartiers populaires. Mais vraiment, j'insiste sur le fait que ça n'est pas seulement ce profil-là qu'on retrouve, puisqu'on en a d'autres, on en voit d'autres profils, des légionnaires, des laitons qui sont plutôt proches de l'extrême droite, un homme à Brive-la-Gaillarde issu de la classe moyenne blanche. Donc on voit bien que c'est vraiment très transversal.
Ce qu'on voit aussi dans le documentaire qui est vraiment, qu'il faut recommander à tout le monde, il est vraiment super bien fait et vraiment intéressant, c'est que les lieux de ces agressions sont soit les applications, les sites de rencontres, Grindr, Badou, Coco qui est pas mal évoqué, soit des lieux de drague comme les Tuileries à Paris, alors au Mans, je sais pas, ce serait le bois de changer. Est-ce que cette réalité, ça traduit pas aussi que la socialisation amoureuse et sexuelle dans l'espace public, c'est encore un privilège hétérosexuel ? C'est-à-dire que quand on est dans le placard, on est vulnérable à ces agressions, en fait.
Alors absolument. Donc il se trouve que mes deux co-réalisateurs, David Perrotin et Mathieu Magnodex, qui sont gays tous les deux, en parlent quand même mieux que moi. Mais je vais essayer de restituer un peu ce qu'ils peuvent dire et qui est vraiment très intéressant. C'est qu'ils disent qu'effectivement, ça continue d'exister parce qu'en réalité, l'espace public, les marques d'affection, la vie amoureuse dans l'espace public pour les gens de la communauté LGBT reste encore aujourd'hui très difficile. Il y a aussi ce facteur de discrétion. Certains gays ne souhaitent pas, pour tout un tas de raisons, que leur vie homosexuelle soit connue, donc vont chercher des rencontres plus dans la discrétion. Et c'est ça aussi qui est exploité par les agresseurs, c'est ça qui est terrible, c'est ce souci de discrétion, d'aller se rencontrer effectivement dans des lieux la nuit ou via des applications de rencontres dans lesquelles on donne pas forcément son nom. Et effectivement, c'est tout ça que ça traduit.
Et vous parlez aussi du traitement médiatique de ces crimes, de ces guet-apens qui n'est pas toujours pris au sérieux, particulièrement chez la presse locale, on voit des aperçus de certaines unes. Là aussi, il y a un retard dans le métier de l'information. On traite ça comme un fait divers, parfois un fait divers un peu original. Différent.
Un peu bizarre même, je dirais, parce que on considère quand même que ce sont des gens qui ont des mœurs un peu bizarres, parce que pour aller se retrouver la nuit dans des parcs, pour avoir des relations sexuelles, il y a aussi ça, il y a aussi tout ça derrière. Je dirais que en fait, je pense que comme c'est un phénomène qu'on n'a pas encore perçu comme un phénomène social, ces violences-là, on les perçoit encore comme des faits divers isolés, des agressions, des faits divers, à partir du moment où effectivement ce sont des faits comme ça sporadiques, et qu'on n'a pas encore vraiment de grille de lecture. Alors je leur jette pas la Pierre, forcément. Ça ressemble un petit peu, je trouve, à la manière dont on pouvait traiter les violences conjugales il y a encore quelques années. Et c'est encore des choses, des articles, on voit encore circuler des articles de presse qui sont totalement inadmissibles, avec un traitement extrêmement sexiste. Et je pense qu'on est vraiment là-dessus, c'est-à-dire on a changé de regard sur les violences faites aux femmes, on n'a pas encore changé de regard sur ces violences homophobes. Mais j'espère que ça va bouger.
Alors moi j'ai une question pour Jonathan Proust, vous êtes avocat du barreau du Mans. On voit dans ce documentaire les difficultés de la justice lors des condamnations à établir un lien avec le terme d'agression homophobe. On estime que seulement 11 condamnations pour guet-apens homophobes ont eu lieu ces 4 dernières années. Déjà, maître Jonathan Proust, que risque-t-on aujourd'hui en France en cas d'agression et de guet-apens homophobes en 2023 ?
Je pense qu'il faut retenir avant tout que ce sont des violences. La particularité du droit français, c'est que les peines sont renforcées. Le fait que l'agression revête un caractère homophobe, c'est une circonstance aggravante. Donc les peines qui sont encourues, très clairement, le législateur a défini cette circonstance comme une circonstance aggravante en alourdissant les peines. Donc ce sont des violences aggravées par un certain nombre de circonstances. On peut retenir par exemple la réunion et le fait qu'on a agressé un tiers en raison de son orientation sexuelle. Donc la peine peut être plus lourde, par exemple un homicide. Si c'est un homicide en raison de l'orientation sexuelle, la peine encourue sera la réclusion criminelle à perpétuité. Alors que si c'est un meurtre simple, si je puis dire, ce sera une peine de 30 ans.
Donc ce que vous dites, ça nous montre bien qu'il y a une avancée dans la loi. L'homosexualité est dépénalisée depuis 1982. C'est bien des circonstances aggravantes. Pourtant, dans les faits, on voit que c'est peu mis en avant. Est-ce qu'on a une explication ? Comment on explique le fait que ça ne revienne pas si souvent que ça ?
Je pense que si on reprend le fil de l'histoire, on peut même parler de décriminalisation, puisqu'à la base, l'homosexualité, la sodomie, c'était la peine de mort. On a beaucoup d'exemples dans l'histoire. Tout à l'heure, on parlait de la dépénalisation qui a été le deuxième mouvement. Le troisième mouvement, justement, c'est de protéger tout à chacun par rapport à son orientation sexuelle. Et effectivement, c'est une circonstance. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a peut-être plusieurs facteurs qui font qu'on ne relève pas cette circonstance aggravante. Parfois, il y a même peut-être de la honte devant une juridiction pénale de parler de son orientation sexuelle. Je pense qu'il y a encore aujourd'hui un tabou en France sur cette orientation sexuelle. On parlait tout à l'heure de honte, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout état de cause, il est vrai que parfois on a l'impression que la victime elle-même, elle culpabilise d'avoir été agressée en raison de son orientation sexuelle. Donc je pense qu'il y a l'appareil législatif qui est en marche. Depuis les années 2000, il y a quand même un renforcement de la protection des personnes en raison de leur orientation sexuelle. Et après, in fine, on a beaucoup regardé les statistiques, il est très difficile de savoir précisément combien de délits ou de crimes sont concernés par l'orientation sexuelle. Ce que j'ai pu noter entre l'année 2021 et 2022, c'est qu'on a en tout état de cause une hausse de 3% des atteintes à caractère homophobe. Donc on voit bien qu'il y a quand même un renforcement de la loi, et malheureusement et presque paradoxalement, il y a de plus en plus d'agressions. Alors est-ce que c'est une meilleure écoute, une meilleure prise en compte, un meilleur accueil des victimes aussi ? Je pense que la police a beaucoup travaillé là-dessus, sur l'accueil des victimes dans un commissariat avec des codes couleurs notamment, pour que les personnes aient moins de mal à s'exprimer et puissent plus facilement déposer plainte et révéler notamment que c'est à cause de cette orientation sexuelle qu'elles ont été agressées.
Il y a un passage intéressant dans votre documentaire, alors on ne va pas rentrer en détail puisqu'il y a des gens qui ne l'ont pas vu, mais vous avez interviewé l'avocate d'un agresseur. C'est une question que je vous pose à tous les deux puisque votre regard va être intéressant. Elle explique clairement, il a déclaré qu'il n'était pas homophobe, qu'il s'en fichait royalement des homosexuels, il n'a aucun problème avec l'homosexualité, puisqu'il reconnaît son agression, il a agressé un homme uniquement pour lui voler son argent. Est-ce qu'à partir de là, c'est tout simplement impossible finalement de prouver l'homophobie de son acte, puisqu'on dit que c'est parole contre parole ?
Alors, nous, ce qu'on pointe du doigt dans ce documentaire, c'est qu'il y a un vrai problème sur la reconnaissance de cette circonstance aggravante de l'homophobie qu'évoquait mon camarade avocat. Depuis 2004, elle est dans la loi, ça fait quand même quasiment 20 ans. Et en fait, on se rend compte qu'elle est quand même très, très peu retenue. Alors effectivement, comme vous le disiez, parce que certaines victimes elles-mêmes ont du mal à la nommer, cette homophobie-là. Mais ce qu'on voit bien, c'est qu'au niveau du parquet, le parquet, c'est donc lui qui décide des poursuites, on voit bien que, sachant que cette circonstance aggravante est un petit peu plus difficile à prouver que les autres, on va quand on peut en privilégier une autre, celle de, si c'est en groupe, la violence en réunion, s'ils sont armés, le fait qu'il y ait une arme. Donc, en fait, ça majore déjà les peines à un certain niveau. Donc, en fait, ils disent, bon, c'est pas la peine d'en rajouter, on est déjà à la peine maximum. Alors qu'en fait, nous, on considère que c'est pas tant ça le problème. Le problème, c'est de pouvoir condamner les gens pour ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, si c'est de l'homophobie, il faut qu'ils puissent comprendre que c'est de l'homophobie. Et en fait, dans notre documentaire, ce qu'on montre, c'est que ce jeune homme qui, à nos yeux, a commis des agressions homophobes, n'a pas été condamné pour, alors qu'il y avait quand même des choses qui pouvaient permettre de l'objectiver, c'était le fait qu'il piégeait des hommes via des applications de rencontres. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on cible quelqu'un pour son appartenance à une communauté sur la base de préjugés, les préjugés, c'est ils sont faibles, ils ouvrent leurs portes facilement, ils ont de l'argent, ça s'appelle de l'homophobie. La circonstance aggravante de l'antisémitisme, si on veut faire un parallèle, c'est exactement la même chose. On a eu l'affaire Ilan Halimi, ce jeune homme qui avait été piégé, vendeur de téléphone. Ses agresseurs voulaient réclamer une rançon à sa famille sous prétexte que c'était une famille qui devait avoir beaucoup d'argent. Ça a été évidemment reconnu comme un crime antisémite, et quand on réfléchit, on peut faire une analogie. Ce sont exactement les mêmes ressorts. Mais pour l'homophobie, on ne le voit pas.
On voit bien dans votre documentaire, dans les paroles de victimes, une fatigue, un vrai épuisement qui est aussi lié donc à toutes les complexifications judiciaires, etc. Comment est-ce que vous avez, comment est-ce qu'on gère de recueillir des paroles comme ça qui peuvent être aussi difficiles sans recréer, sans refaire surgir des souvenirs d'agression trop compliqués?
Alors effectivement, on fait très attention. Déjà, quand on sollicite ces victimes, nous jamais on va un petit peu tordre le bras à quelqu'un pour qu'il témoigne. En fait, il faut vraiment que moi, comme je dis souvent aux gens que je contacte pour les témoignages, il faut que ce soit utile pour eux aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils en retirent quelque chose. Donc ceux qui acceptent en général, c'est que ça va leur apporter quelque chose dans leur parcours de reconstruction. Ils vont peut-être pouvoir avoir le sentiment d'être réparés d'une certaine manière, d'être entendus, etc. Donc en fait, moi, j'appuie toujours sur cet aspect-là qui est plus un aspect positif. Et après, s'ils ne souhaitent pas re-raconter les détails de leur agression comme ça, évidemment, on ne leur demande pas non plus. Voilà, c'est cette idée-là que ça soit quelque chose de constructif en réalité. Et aussi, ce qu'on a voulu, c'est faire ce documentaire pour essayer de faire un petit peu avancer les choses. Donc il y a cette idée d'un petit peu d'utilitarisme à dire, voilà, votre témoignage, il peut être utile pour tous les autres, en fait.
Jonathan Proust, pour rebondir sur les propos de Sarah Brett au sujet de cette agression homophobe, des déclarations que les prévenus peuvent faire pour se défendre, comment réussir à apporter des preuves irréfutables lorsqu'on défend une victime et qu'il faut prouver qu'il a eu un caractère homophobe si même l'application ne suffit pas?
Je pense que si on revient un peu en arrière, il y a pour moi deux grands types d'infractions. Il y a tout ce qui concerne la loi de la presse de 1880, c'est-à-dire toutes les atteintes homophobes sur les réseaux sociaux notamment, la diffamation, ce genre de choses, où le législateur a bien avancé sur les injures notamment envers une personne en raison de son orientation sexuelle, l'incitation à la haine, etc. Et ça, c'est assez fortement réprimé. Et depuis le début des années 2000, on en parlait tout à l'heure, il y a un renforcement de l'arsenal législatif. Malheureusement, il y a beaucoup de victimes qui n'osent pas aller voir un avocat, parce que c'est vrai que c'est une procédure qui est un peu complexe, mais il ne faut pas hésiter à aller devant un tribunal correctionnel pour dénoncer des propos diffamatoires sur les réseaux sociaux.
C'est complexe, mais c'est aussi coûteux. Enfin,
oui, alors...
démarche judiciaire, enfin...
On est 100, par exemple, au barreau du Mans, on est 180 avocats. Je pense qu'on a, des avocats qui travaillent notamment au titre de l'aide juridictionnelle. Mmh. Quand on n'est pas fortuné, il y aura toujours un avocat pour assister quelqu'un. Donc, faut pas hésiter à contacter l'ordre des avocats, demander la désignation d'un avocat. Je pense que c'est absolument nécessaire. Pour revenir sur votre question, donc là, plutôt sur les atteintes physiques, comme ma camarade le disait tout à l'heure, la justice, elle est absolument débordée. C'est vrai que c'est difficile. On passe beaucoup maintenant sur des procédures d'urgence, ce qu'on appelle la comparution immédiate, sortie de garde à vue, ou alors on est sur des convocations très tardives, avec parfois 1 an, 2 ans de délai entre le moment de la commission des faits et le moment où on est jugé. Pour les faits les plus graves, on a ce qu'on appelle une instruction. Donc le procureur de la République saisit un juge d'instruction qui va enquêter et essayer de faire la lumière sur les circonstances. Après, parfois c'est parole contre parole. Je pense qu'en droit français, on a quand même un droit qui est relativement très protecteur de la victime et de la partie civile. On a, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu lourd, mais les associations j'ai eu le cas dans un procès récemment, peuvent se constituer partie civile et venir appuyer notamment l'action de la victime. Donc on a le parquet qui est là, on a la partie civile qui peut avoir un avocat et des associations qui peuvent venir appuyer, venir demander un euro symbolique simplement pour venir appuyer la parole de la victime. Donc, et on a aussi en droit français, la victime a son avocat, son propre avocat, ce qui n'est pas le cas dans tous les systèmes judiciaires. Donc je pense que les choses, elles sont à améliorer. Il faudra que la justice ait plus de moyens, mais je trouve qu'il y a notamment au Mans un travail des associations. Tout à l'heure, vous allez recevoir la présidente d'une association que je connais bien, où il y a un accompagnement des victimes qui justement sont accompagnées devant les tribunaux, dans les cabinets d'avocats, pour justement les aider à prouver ces atteintes qui sont très graves et qui doivent être réprimées.
Et la police, parce que tout à l'heure vous avez dit la police a fait du chemin. Après, dans le documentaire, on voit quand même qu'à la DILCRA, je crois, ils sont deux pour faire des formations dans tous les commissariats. Donc là, on se dit, bah, ça, forcément, ça peut pas avancer super vite et super bien.
Oui.
Et il n'y a pas un sujet aussi au niveau de la formation des policiers et des policières ?
Oui, alors je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolutions pour la modernisation, entre guillemets, de la police. Je pense, alors moi je suis l'avocat de nombreux fonctionnaires de police en Sarthe. Et je puis vous dire qu'au sein de la police nationale, il y a même des mouvements LGBTQ+, avec des fonctionnaires de police qui se revendiquent aujourd'hui homosexuels. Donc je pense qu'il y a une vraie prise en compte de l'orientation sexuelle pour les fonctionnaires de police eux-mêmes, qui luttent contre les discriminations même au sein de la police. Donc je pense qu'ils sont de mieux en mieux formés. Après, aujourd'hui, il y a encore un travail considérable probablement qui est à faire, mais je pense que les policiers, le Mans, j'insiste là-dessus parce que c'est un commissariat que je connais bien, a été récompensé notamment par le ministère de l'Intérieur pour ce code couleur qui a été mis en place pour justement simplifier l'accueil des victimes et simplifier la plainte. Alors c'est vrai que parfois on se dit oui, j'ose pas aller déposer plainte, ça va me prendre la journée, on va pas me croire, etc. Ça, malheureusement, voilà, c'est pour ça que j'insiste aussi sur la nécessité peut-être d'aller voir un avocat avant, se faire accompagner. Quand on est victime, on peut se faire accompagner de quelqu'un pour déposer sa plainte, on peut se faire accompagner par quelqu'un d'une association, etc. Et je pense que les fonctionnaires de police ne ferment pas la porte du commissariat. Et je terminerai en disant que c'est parce qu'il y a des procès qui sont publics, c'est parce qu'il y a des articles dans la presse que ça facilite et ça délie des langues et qu'après, on a plus de facilité à aller déposer plainte. Donc je pense que c'est absolument essentiel.
Oui. Je voulais juste en profiter, ça n'a rien à voir avec le documentaire, mais à 20h, il y a un rassemblement Place de la République pour la mort de Naël. Je voulais le signaler, ça a peu à voir avec le sujet, mais voilà.
Est-ce qu'on a des statistiques, des informations sur où est-ce que ces crimes ont lieu en France ? Est-ce qu'on observe qu'ils ont lieu dans des lieux ruraux, davantage dans les métropoles, les grandes villes, dans certains types de quartiers ? Est-ce qu'on sait ? Est-ce qu'on a une étude de tout ça ?
Alors j'ai regardé justement les statistiques du ministère de l'Intérieur. Il semble qu'il y ait plus d'infractions à caractère homophobe au sein des agglomérations de plus de 200 000 habitants. 55% des victimes ont subi des agressions dans les lieux publics. 33% sur la voie publique, 14% les lieux ouverts au public et 9% dans des services publics, 7% via les réseaux sociaux et 20% dans les habitations individuelles ou collectives. Et sur les stades des H, intéressant aussi, 24% des mises en cause ont entre 15 et 19 ans, 17% entre 20 et 29 ans et 12% entre 50 et 59 ans. Et c'est pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, les agresseurs sont souvent jeunes. On voit bien que la majorité, finalement, il n'y a que 12% qui a plus de 50 ans. Pareil sur l'âge des victimes, 30% des victimes entre 20 et 29 ans, 21% entre 30 et 39 ans et 16% entre 40 et 49 ans.
Ils sont jeunes, ces agresseurs, Sarah Brett, parce que Internet et les réseaux sociaux créent une nouvelle forme de haine, un sadisme qui évolue.
Alors, je trouve que c'est très difficile de répondre à cette question. Je pense qu'ils sont jeunes parce qu'ils sont d'une part conditionnés par une homophobie quotidienne. Parce qu'il faut bien voir que quand même on vit dans une société où les propos homophobes sont largement tolérés et c'est ce qu'on voit dans le documentaire, c'est-à-dire que un des deux agresseurs dit non je ne suis pas homophobe, mais en fait il déroule tout un tas en fait de préjugés et de clichés totalement homophobes, mais en fait pour lui ce n'est pas ça être homophobe. Quand on voit ce qui se passe dans les stades de foot, quand on voit ce qui se passe, enfin quand on voit qu'il y a une ministre du gouvernement qui parle des homosexuels en disant ces gens-là et que en fait ça ne pose pas problème, une ministre qui s'était opposée au mariage pour tous et toutes, on voit bien qu'en fait ce discours homophobe il est de toute manière toléré. Donc peut-être que cette jeunesse elle est plus poreuse et plus marquée et que Je sais pas. Pour l'instant, c'est des hypothèses. Et peut-être, ça, c'est peut-être ce sur quoi Maître Proust peut-être plus parler, mais sur les agressions et la violence, toute cette petite délinquance, on a quand même souvent des auteurs qui sont plutôt jeunes, en général, sur les violences aux personnes. Donc je me dis que c'est une espèce peut-être de sous-catégorie aussi des violences plus générales qui explique que voilà, la jeunesse de ces agresseurs.
Cette violence qui est structurelle, qui est une haine structurelle, elle fait écho finalement à une société où la norme est la norme cis-hétéro. Est-ce que quand en amont ou pendant votre documentaire, s'est posée la question des violences lesbophobes, transphobes, est-ce que c'était un choix de le laisser de côté ?
Alors absolument, c'est évidemment poser la question. Moi, j'avais particulièrement travaillé sur un dossier de viol lesbophobe, encore une fois en Seine-Saint-Denis, qui avait fini par être reconnu comme lesbophobe au terme d'un combat judiciaire assez acharné. Donc je suis assez attachée au travail sur les lesbophobies, sachant qu'en plus, les lesbiennes sont quand même encore très très invisibilisées. Donc voilà, je pense qu'il est encore plus important de parler de ces violences-là. Ceci dit, ces violences-là, ces guet-apens sur lesquels on s'est penché, il faut bien comprendre que c'est une violence masculine sur des individus de sexe masculin. En fait, ce sont des violences portées par des hommes contre des hommes qui sont jugés insuffisamment virils, si je caricature. Donc, en fait, ça n'est pas transposable en fait aux femmes, puisque en fait, ça relève d'autres problématiques. Et ce qu'on remarque aussi beaucoup dans les dossiers, juste une petite seconde pour le dire, c'est qu'on a quand même beaucoup parmi les agresseurs des hommes qui sont soit homosexuels, soit bi.
Alors justement, j'allais vous poser cette question, c'est intéressant, dans ce documentaire, vous vous penchez un peu plus en détail sur le profil. Vous avez interviewé Sébastien Chauvin, qui est donc un sociologue, qui évoque le profil de certains agresseurs. Et il parle alors non pas d'homosexualité refoulée, mais intériorisée. Il y a un pétage de plomb, je l'ai agressé parce qu'il m'a regardé, parce qu'il a essayé de m'embrasser. C'est une théorie crédible, mais est-ce que c'est aussi parfois une excuse trouvée lors de la défense face à la justice ?
Alors ça, on a eu beaucoup de discussions là-dessus avec mes deux co-réalisateurs parce qu'on n'avait pas vraiment le même regard là-dessus. Eux le voyaient beaucoup comme quelque chose qui peut être brandi comme une insulte, comme une excuse. Et ce que j'ai vu moi dans les dossiers judiciaires que j'ai décortiqués et dans les procès auxquels j'ai assisté, c'est que au contraire, ce n'est pas quelque chose qui est revendiqué par les agresseurs. Au contraire, c'est quelque chose que les enquêteurs découvrent en général en fouillant leur téléphone portable, en les interrogeant. Moi, j'ai le souvenir voilà de ce jeune homme à la barre à Bobigny auquel la présidente du tribunal finit par demander « Mais est-ce que vous ne seriez pas homosexuel ?» Et il répond « Peut-être, mais ce serait vraiment un problème pour ma famille. » Donc on voit bien que ce ne sont pas des agresseurs qui revendiquent une espèce de panique homosexuelle. Ce sont pour certains des gens qui ont une sexualité homosexuelle qui ne peuvent pas, qui ne peut pas s'épanouir pour tout un tas de raisons. Après, ça n'est pas une excuse, évidemment, mais c'est effectivement une espèce de forme d'homophobie intériorisée. Et moi, ce que je dis souvent, ce qui m'a frappé dans toutes ces histoires, c'est la honte à tous les niveaux, c'est-à-dire la honte des victimes pour X raisons et la honte des agresseurs pour certains d'être homosexuels et d'aller en finir par aller agresser des hommes qui leur ressemblent au fond.
On arrive au terme de cette interview. Le temps passe très vite. Merci beaucoup, Maître Jonathan Proust, d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes avocat au barreau au Mans. On va pouvoir découvrir ce documentaire d'ici une heure. En tout cas, on peut également le retrouver sur Mediapart, sur la version abonnée.
Absolument, il est en ligne sur le site de Mediapart. Mediapart qui ne vit que grâce à ses abonnements, donc n'hésitez pas.
Donc voilà, et puis vous serez avec le public d'ici 20h après pour un échange. Merci beaucoup Sarah Brett d'avoir répondu à notre invitation.
Merci beaucoup à vous.
On va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. Nous recevrons Françoise Gambier de l'association Homogène qui est partenaire de cet événement au Cinéaste et nous écouterons également deux extraits de témoignages de personnes victimes d'agressions homophobes. Des témoignages que vous pourrez écouter dans leur intégralité sur notre antenne la semaine prochaine, ce sera mardi. On va se retrouver dans quelques instants après une pause musicale. C'est un choix de Tiffaine et Bertrand. Est-ce qu'on peut savoir, on peut en savoir un peu plus ?
Alors, on va écouter une musique d'Edith de Préto, puisque Edith de Préto prête sa voix au documentaire.
Qui est la voix narrative de ce documentaire.
Et qu'on apprend à la fin, enfin, je vais spoiler, hein, mais tant pis, oui. On apprend dans le documentaire que lui-même a été victime quand il était
jeune
ado, d'un guet-apens auquel il a échappé.
Et pour la petite histoire, on l'ignorait quand on l'a sollicité.
Ouais. Ah oui, d'accord.
On peut donner le titre de cette musique ?
C'est Normal.
Eh bien, on s'écoute ça tout de suite. À tout de suite sur notre antenne. Thank you.
ça penses-tu que tu sors du tas? Penses-tu mais pour qui tu te prends? Je crois ça t'es juste insultant. Tiens pour une fois, reste sans voix et rassure-toi, je ne contamine pas. Puis assure-moi qu'avec ton petit minois, tout restera simple et courtois. Non, ne m'accuse pas, me descends pas de pédéraste jusqu'au bout des doigts. Si tu veux crier que tu es plus fort que tout, sans rouge vernis et fard à joues, tu tentes de me tuer, de tes remarques, de me vider à coups de hache. Mais jeune homme, sais-tu seulement que je me maquille pour te rentrer dedans? Ça y est, ça te glace le sang. Que tu sois gars ne soit qu'un minime détail, que tu sois charme tout presque comme une dame. Non, ne donne pas ton âme au diable. Et le pire, fais attention garçon, faire joujou dans ton petit pantalon peut me provoquer de fines réactions. Allez, tourne-toi, dégage, que je tape le fond. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal, je suis complètement malade. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal, je suis complètement malade. Oups, pardon, j'ai eu tort. D'habitude, je mets des gants. J'ai laissé mes manières dehors. Pour un mec comme moi, c'est étonnant. Car oui, bon, je t'ai pas tout dit. Bienvenue là où tu peux faire ta comédie. Surtout jouer à faire ce que tu as envie. Attends de voir si ce soir tu me suis. Sinon, insulte-moi et descends-moi. De contre-nature ou la belle injure. Cette fois, ça te coince, ça te stresse. Allez, bouge et serre les fesses. Puis ne reviens plus voir avec tes gros sabots. Pour semer le fiasco en venant ici. En jetant des mots sans parcimonie. Des grands mots qui font froid dans le. Car je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal, je suis complètement malade. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal, je suis complètement malade. Si tu que certains se font des nœuds de secours, d'autres fabriquent des cabanes de clous. Certains se cachent à travers la foule et d'autres avis bien le refoulent. Alors si toi tu te sens beaucoup plus sain dans ta petite vie, ton petit train-train, saute-les toutes et trace ta route. Ne t'en fais pas, bel assassin. Je suis complètement normal, complètement banal, tellement malade.
De retour sur Radio Alpa pour la deuxième partie de notre émission aux cinéastes du Mans consacrée à ce ciné-échange autour du documentaire de Mediapart « Guet-apens des crimes invisibles ». Nous sommes toujours avec Bertrand et Tiffaine de l'émission Intersection. Et pour cette nouvelle partie d'émission, on va recevoir Françoise Gambier, représentante de l'association Homogène au Mans. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes aussi avec Rémi Roussies de l'association Homogène aussi. Bonjour.
Bonjour.
On va parler donc plus en détail de cette association LGBTQI+, au Mans. On écoutera ensuite deux témoignages que Radio Alpa a recueilli sur deux personnes agressées. D'abord, Bertrand, après cette première interview qu'on a eue en première partie sur le documentaire de Mediapart, il convient un peu de revenir un peu plus en détail sur les derniers chiffres et études de SOS Homophobie qui sont sortis au printemps. Qu'est-ce qu'on y apprend? Qu'est-ce qu'il en ressort concrètement?
Oui, effectivement, Robin, en fait, quand on parle de LGBTI-phobie, le document incontournable, en fait, c'est le rapport annuel de SOS Homophobie. Donc là, on a celui de 2023 et on vous propose un petit résumé. Donc en 2022, les personnes gays, lesbiennes, bi, trans, queer, intersexes ou asexuelles, ces gens-là, comme a pu dire l'ex-ministre Caroline Cayeux, avant de démissionner, sont encore et toujours victimes d'agressions en raison de leur orientation sexuelle et amoureuse et ou de leur identité de genre. D'abord en ligne, alors ça c'est 17%, puis dans la famille 15%, et ensuite dans les commerces, le voisinage, à l'école, etc. Et ces agressions, donc, elles vont du rejet à la violence physique et ou sexuelle, en passant par les menaces, la discrimination, l'injure publique, etc. En fait, tous les âges sont concernés et les agresseurs sont pour la moitié des groupes. Ensuite, ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est qu'il montre qu'il y a une LGBTI-phobie transversale, mais en même temps des spécificités à chaque oppression. En gros, les lesbiennes ne subissent pas les mêmes discriminations que les mecs gays. Et le rapport alerte notamment sur la transphobie, qui est en forte augmentation. C'est plus 35% entre 2020 et 2022, avec des relais puissants sur les réseaux sociaux. Enfin, les cas d'agression physique rapportés à SOS Homophobie sont au nombre de 184 en 2022 et concernent à 68% des hommes cis, des hommes gays cis. Voilà, donc 10 ans après le mariage pour tous, on assiste donc à un retour au grand air des violences LGBTI-phobes.
Comment est-ce qu'on peut lire ces chiffres, Françoise Gambier ? Est-ce que c'est le symbole d'une société qui se délie, qui se fracture, ou c'est aussi une société où la parole et les témoignages se font de plus en plus nombreux, plus qu'avant ?
Mais oui, effectivement, je crois que c'est ça. Hein. La parole se libère et les personnes LGBTI se montrent aussi beaucoup, on en parle plus. Donc, action, réaction.
Françoise, je vais tutoyer parce qu'on se connaît, oui. Rémi aussi. Tu fais des IMS, hein, ça s'appelle comme ça, des interventions en milieu scolaire. Et donc, on a parlé tout à l'heure de la jeunesse des agresseurs qui sont. Enfin, il y en a deux hein, qui interviennent dans le documentaire Guet-apens. Toi qui es au contact régulier de 15-18, en gros, sur ces questions-là, est-ce que tu vois une évolution en fait, dans leur profil, dans leur rapport aux questions LGBTQIA+ ?
Oui, quand même, j'ai l'impression que déjà rien que les insultes homophobes, quand on leur dit mais PD, vous savez de quoi ça vient PD ? Ben, mais oui, non, mais on dit ça comme ça, on dit ça, c'est, on s'en fout en fait, c'est pas, ça n'a rien à voir avec l'homosexualité, oui, mais les mots ont un sens.
C'est de l'humour, l'éternel c'est de l'humour.
Oui, de l'humour un peu dégradant quand même. Hein. C'est toujours pour désigner une incapacité quelconque. Quoi. On n'est pas des tafioles, on n'est pas... Voilà. Et quand on analyse un peu tout ça, une tapette, une fiotte, une tarlouse, pourquoi une ? C'est là qu'effectivement, parce que c'est pas un vrai homme. Et si c'est pas un vrai homme, c'est un sous-homme. Et donc,
une femme, en fait. Ouais.
Donc voilà, c'est là où l'homophobie rejoint le sexisme. Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous présenter plus globalement les missions premières et les actions à l'année que cette association homogène, assez connue en Sarthe, fait ?
Alors, l'association existe depuis 25 ans. On propose un accueil convivial tous les mercredis soirs de 18h à 21h.
Où ça ?
Alors, c'est 26 avenue du Général de Gaulle.
Juste à côté, là ?
Juste à côté des cinéastes, voilà. Oui, il y a un autre local à Pont-Vallin qui vient d'ouvrir, une antenne à Pont-Vallin. Donc à la mairie de Pont-Vallin, tous les vendredis, il y a un accueil convivial aussi, soir, de 18h à 21h aussi, je crois, ou 19h peut-être. Je dis peut-être, voilà. Il y a une cellule d'écoute anonyme gratuite sans rendez-vous qui a été créée il y a 6 ans maintenant, avec des gens formés à l'écoute par l'Agence régionale de santé. Et pour lutter contre le suicide. Donc, en complément de cette formation, il y a aussi une formation de prévention du suicide. Donc, on a quand même 6 ou 7 ou 8 jours de formation pour être écoutant. Et...
Parce qu'on rappelle que les personnes LGBTQIA+, et notamment, je crois, les jeunes LGBTQIA+, ont un taux de suicide qui est 4 fois plus important que la population générale, en fait.
C'est ça. C'est ça. Et cette cellule d'écoute, elle est tous les jeudis de 17h30 à 19h30, toujours au local d'Homogène, anonyme, gratuite et sans rendez-vous. Et en fait, on y voit beaucoup de gens de tous âges, hein, finalement, pas que des jeunes.
Rémi Rousias, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu vos missions au sein d'Homogène et dans quel cadre vous intervenez ?
Alors j'en ai plusieurs, je suis avec Michel Bourrigo, celui qui pilote le dispositif d'Au Moment, donc il y a un dispositif un petit peu comme le refuge qui cherche à mettre les jeunes LGBT qui viennent d'être jetés dehors, donc à l'abri. Donc il y a ces violences familiales auxquelles on est confrontés, et puis je suis également... responsable, co-responsable même des parcours de transidentité. Donc j'accompagne les différentes personnes concernées, mais également leurs proches dans le parcours de transition. Donc un parcours que nous on fait sur mesure en fonction des besoins de la personne. On ne suit pas un protocole et on est complètement sans jugement. Et je forme du coup dans ce contexte-là également plusieurs médecins, plusieurs membres de l'éducation nationale également, pour essayer de lutter contre ces violences qui touchent cette catégorie de personnes en particulier.
Donc est-ce que vous intervenez, vous êtes tous les deux menés à intervenir en milieu scolaire, est-ce que vous trouvez que les enseignants, les établissements sont plutôt réceptifs à ces thématiques? Est-ce que on vous donne les moyens de vraiment en discuter avec les jeunes?
Oui. D'autant plus que les infirmières scolaires maintenant sont sensibilisées sur ces questions et font beaucoup appel à nous. Mais le problème, c'est que plus ça va, plus on a de demandes et qu'on n'a pas beaucoup de bénévoles pour malheureusement intervenir.
Et est-ce que vous observez une évolution dans la réaction? Est-ce que des jeunes, en fait, au fur et à mesure du temps, est-ce qu'aujourd'hui, vous constatez qu'ils sont plus informés, qu'ils savent plus de choses ou
Ça dépend lesquels. Ouais. Il y en a qui sont plus informés et d'autres qui sont toujours aussi bornés.
Et l'institution, je voudrais poser la question à Rémi, l'institution, bon, alors, le regretté Blanquer avait produit deux circulaires, une en pleine pandémie, ça devait être l'urgence pour interdire l'utilisation de l'écriture inclusive. Moi j'ai des élèves qui ont été vraiment frappés, enfin vraiment par ça, enfin qui ont vécu ça comme une violence symbolique. Et ensuite il y a eu la circulaire sur l'intégration des élèves trans. Est-ce que tu veux en parler, Rémi?
Oui, alors la circulaire...
2021, je crois.
Oui, c'est ça, 2021. Donc la circulaire pour l'intégration des élèves trans, elle a été re-rappelée dans la nouvelle campagne contre l'homophobie et la transphobie qui vient de paraître. Elle est très peu connue quand même des établissements. Elle a circulé, mais comme beaucoup de mails de l'éducation nationale, on est un petit peu noyé et donc on a beaucoup de gens qui n'ont pas pris du tout conscience. Et on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup beaucoup d'élèves trans qui font appel en fait aux associations pour connaître leurs droits parce que ce n'est pas appliqué. Donc cette circulaire, elle reste assez floue. Alors, c'est important qu'elle reste floue, notamment concernant les vestiaires, les toilettes, etc. Puisque l'idée, c'est de travailler au cas par cas. Chaque établissement n'a pas du tout les mêmes infrastructures. Donc, il y a ces questions-là quand même à prendre en compte. Mais elle rappelle aussi, cette circulaire, le devoir de respecter l'autorité parentale. Donc, il faut absolument que l'élève ait l'accord des parents pour pouvoir être genré correctement par ses enseignants. Et ça, déjà, nous, ça ne nous va pas. Parce que des élèves par exemple qui ont un prénom composé qui demandent à être appelés que par le premier, tout le monde le fait, moi y compris, et j'ai jamais demandé l'autorisation aux parents. Donc pourquoi pour les personnes trans les mettre mal à l'aise comme ça? On voit bien qu'il y a encore des problèmes et de l'évolution à avoir.
D'où l'intérêt, j'imagine, d'Homogène d'essayer de travailler avec les familles dans leur globalité.
Oui, et puis la circulaire rappelle quand même aussi que on ne doit pas outer un élève en fait. C'est complètement interdit, c'est dangereux. Voilà.
Il semble même que c'est illégal.
C'est illégal. Et si je m'occupe justement du dispositif de moment, c'est justement parce qu'on a des jeunes qui sont jetés dehors suite à un outing souvent. Donc non, c'est complètement inconscient de prévenir les parents si jamais l'élève vient et dit qu'il est trans. Lui dire que on a besoin pour changer par exemple le prénom sur des bulletins ou l'inscription au brevet ou au bac, il faut l'autorisation parentale, ça c'est un fait. Mais en revanche, il faut chercher à nouer le dialogue. Et si jamais le dialogue n'est pas possible et qu'on sent que l'élève il est en danger, en fait, il faut faire des informations préoccupantes. Il faut que l'éducation nationale se saisisse de ce sujet réellement, quoi.
J'ai encore une question sur l'éducnat, mais moi l'impression que j'ai, c'est que les gamins ils maîtrisent le lexique LGBTQIA+. Par contre, les profs, hein, mes collègues, en gros, je vois bien qu'il y a des trucs, mais c'est quoi cis, trans, on dit transsexuel ou pas, enfin, il y a un certain retard en fait par rapport à l'utilisation actuelle, enfin, par exemple le terme transgenre, en fait, il n'est pas complètement, enfin maintenant ça commence à venir, mais est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de formation des profs sur ces questions-là?
Si, complètement. Alors le problème, c'est toujours la même. C'est quand est-ce que sont financées les formations des enseignants? Quand est-ce qu'on leur donne le temps aussi? Parce que on propose des formations sur temps de vacances, donc ça convient pas non plus aux enseignants qu'on pas envie de faire du travail gratuit. Mais oui, il y a un vrai problème de sensibilisation du milieu éducatif en général. Et il y a un vrai décalage qui se fait avec les élèves, parce que les élèves ont quand même accès à Internet, ont de plus en plus de connaissances de leurs droits, et parce que malheureusement ils ont 13-14 ans, eh bien on va pas les écouter alors qu'ils apportent des lois, et les lois elles sont au-dessus d'un règlement intérieur.
Alors on est rattrapé par le temps, donc on va écouter les deux extraits de témoignages. Le premier, c'est une personne qui est restée anonyme. Elle a été victime d'une tentative d'agression il y a 3 ans pendant une fête à la campagne. Dans le deuxième témoignage, il s'agit de Léo. Il vit entre Naples et la France pour son travail et il a été agressé à Naples avec sa compagne transgenre il y a plusieurs mois dans un guet-apens chez plusieurs hommes. Donc voilà, on écoute ces deux témoignages et on se retrouve juste après. Alors on s'excuse par avance pour la qualité sonore puisqu'ils ont eu lieu au téléphone. A tout de suite.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Donc, on vous avait souhaité témoigner sur notre antenne, dans le cadre de cette émission qu'on consacre ce vendredi 30 juin, sur une agression que vous avez vécue il y a quelques mois, plusieurs années. Est-ce que déjà vous pouvez nous raconter dans quel contexte vous avez vécu ça? Où est-ce et comment est-ce que ça a commencé?
Alors, c'était quand j'étais encore au lycée, en terminale, juste après le confinement du Covid-19, le 1er en mars. Et c'était à une soirée chez des amis dans une écurie. En fait, ils ont commencé à se rendre compte que moi, j'étais LGBT. Et ils ont commencé à sortir des phrases un peu vulgaires. Donc je sais pas si je peux les dire ou pas. Toi, le suceur de bite, on va te faire ta tête. Et au bout d'un moment, on commençait à se taquiner tous les uns les autres, à jouer à la flotte parce qu'il faisait chaud. Et puis, à un moment donné, en fait, les deux m'ont coincé au niveau du portail qui était fermé à clé. Et donc, ils ont répété la même phrase. Donc, toi, je suis sur deux bits, on va faire ta fête. Et moi, j'ai escaladé le portail et je suis allé me cacher un peu partout, là où je pouvais. C'était en plein milieu des champs, donc je me suis caché parmi les champs. Et les deux personnes ont commencé en fait à sentir une grosse lampe torche et un taser. Et ils m'ont cherché pendant un bon moment. Et mes amis qui étaient présents durant la soirée, on commençait également à me chercher parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Donc moi, je leur ai dit par SMS ce qui se passait. Et ils ont prévenu le propriétaire du lieu qui est venu et a viré les deux personnes. Et après, la soirée s'est finie tranquillement, on va dire.
Est-ce que vous avez souhaité porter plainte après ça?
Non. Déjà parce que je ne connaissais pas l'identité des deux personnes qui m'ont agressé. Ensuite, parce que j'étais un peu la seule témoin, on va dire, de ce qu'ils ont dit mot pour mot. Troisièmement, parce que ça faisait une plainte contre X et je pense que ça n'aurait pas été très loin et ça n'aurait pas été très utile.
Pourquoi c'est important selon vous de témoigner sur notre antenne, de raconter votre témoignage, votre expérience, cette agression que vous avez vécue et même plus globalement de parler de vous, de votre vie?
Pour montrer qu'on est là, qu'on est juste des êtres humains, peut-être différents mais juste des êtres humains, qu'on vit, qu'on aime les gens qui nous entourent. Et que pour des personnes qui ont subi également des agressions ou qui ont peur d'en subir ou qui ont honte, on va dire, de leurs différences, qu'on n'est pas seul et qu'on est aussi là pour les accompagner par le biais d'associations militantes.
Voilà, c'est la fin du premier témoignage et surtout du premier extrait, puisque vous pourrez écouter ce témoignage en intégralité sur notre antenne ce mardi. On va donc tout de suite écouter le deuxième témoignage. Il s'agit de Léo, qui est envoyé spécial pour l'OTAN et donc il travaille à cheval entre Naples et Paris. Et cette agression qu'il a vécue il y a plusieurs mois s'est déroulée à Naples en Italie. Donc il en parle tout de suite. Là aussi, c'est un extrait, vous pourrez l'écouter en intégralité sur notre antenne la semaine prochaine. Léo, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation pour témoigner sur notre antenne. Et donc, vous avez donc été victime d'une agression homophobe, LGBTphobe, comme on pourrait dire. Racontez-nous déjà dans quel contexte cette agression a eu lieu, qui s'est passé à Naples.
Pour expliquer clairement, j'avais une amante trans que je voyais régulièrement et je la voyais uniquement dans le cadre du privé. Et je trouvais ça dommage de pas sortir avec elle, sachant que ça faisait beaucoup de nuits et de soirées que je passais avec elle. Je voulais l'inviter dehors à Naples, dans un bon restaurant, etc. Justement pour lui montrer aussi que je n'avais pas honte de la voir. Je voulais montrer que j'assumais et que j'étais totalement prêt à assumer de m'afficher avec elle, etc. Et finalement, elle a accepté de venir avec moi parce que j'ai insisté. Et on est allé tout d'abord dans un restaurant qui s'est très bien passé. Les verres aidant, on a continué dans un second bar. les verres aidants, on allait dans un troisième bar s'enfonçant de plus en plus dans les petites rues de Naples jusqu'à ce qu'un groupe d'individus nous parle et nous invite à une soirée juste à côté. En effet, dans un quartier beaucoup plus populaire que le premier dans lequel on était allé. Et donc, puisqu'il était déjà 2-3 heures du mat, on était très ambiancé dans la soirée, on a accepté, on y allait sans trop se soucier ni regarder les quelques signes qu'on aurait pu déceler. Et on est rentré dans la soirée se passait bien, avec pas mal de monde, je dirais 15-20. Au bout d'un moment, on a commencé, certains des hommes commencent à me parler de manière un peu plus agressive, et je vois bien qu'ils commencent à m'encercler et à me coincer dans un coin. Là, je commence à dire « bon, je crois qu'il va falloir y aller ». Et là, les insultes homophobes commencent à fleurir et je commence à dire « bon, là, je vais partir, ça va pas ». Et ils me bloquent et un des hommes présents commence à sortir un couteau. Là, évidemment, je commence à être terrifié, à avoir extrêmement peur. Il commence à me dire que je vais pas sortir, que ça va mal se passer pour moi, etc., etc. Enfin, des menaces très très explicites. Et avec moi, j'ai eu une peur très très importante. L'avantage un peu, c'est qu'ils ont une lecture très, finalement très masculiniste de la situation. Et mon ami trans, ils l'ont absolument laissé dans un coin sans prendre pour hypothèse qu'elle pourrait elle également répondre et devenir une menace à son tour. Ce qui n'a pas loupé, elle est immédiatement chercher un couteau dans le tiroir de la cuisine juste à côté, qu'elle a immédiatement mis sous le coude d'un des hommes et l'a écarté du groupe pour empêcher tout contre-attaque du groupe qui nous avait bloqué, et en disant très explicitement, on sort ou sinon je tue votre collègue. On est sorti immédiatement comme ça, un peu dans la panique, et on a gardé l'homme en armes, on va dire, jusqu'à sortir explicitement de l'appartement. Là, on a couru jusqu'à ne plus pouvoir. Heureusement, c'était près d'une place publique très éclairée, donc on est resté dans la place publique très éclairée parce qu'on savait que là, il n'était pas possible de nous attaquer tout de suite. Et on a attendu et on a rentré dans un taxi pour rentrer chez moi. Et là, on est resté la nuit à essayer de se calmer. Évidemment, une nuit blanche et c'était absolument impossible de retrouver le sommeil. Voilà.
Voilà, ce sont donc deux extraits de témoignages que vous pourrez écouter en intégralité ce mardi 4 juillet à partir de 18h30 dans l'émission C'est d'Actu. Léo explique ensuite, c'est assez intéressant dans cette interview, son regard sur les différences entre la société italienne et française, puisque pour lui il y a encore beaucoup de retard dans la société napolitaine. Et puis il y aura aussi l'intervention de deux autres personnes. Tiffaine, tu avais une intervention.
Alors, oui, la première victime, on explique qu'elle ne souhaitait pas témoigner, plutôt porter plainte. Oui. Pour des raisons qui semblent logiques, qui sont tout à fait compréhensibles. Est-ce que, en tant qu'accompagnant, on doit inciter à porter plainte ? Si jamais on le fait, qu'est-ce qu'on dit ? Quels arguments on peut utiliser pour dire que ça a du sens de porter plainte, même si les agresseurs ne seront pas retrouvés nécessairement ?
Il est vrai que le rapport de SOS Homophobie pointe vraiment du doigt la difficulté de porter plainte, la difficulté d'avoir des plaintes qui suivent leur cours. Je rappelle quand même qu'il est interdit de refuser de prendre une plainte et il y a quand même encore beaucoup de problèmes qui sont remontés. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à se rapprocher des associations quand c'est le cas. Vous n'êtes pas non plus obligé de porter plainte dans votre commune, vous pouvez très bien porter plainte n'importe où. Il y a un passif historique et qui est encore actuel entre la police et le regard porté sur les LGBT et le vécu LGBT. Il s'avère que nous, au Mans, on a un commissariat qui essaye de mener des actions innovantes, notamment à travers un code de couleur. Mais c'est surtout expliquer à la victime que sans porter plainte, on ne pourra pas avoir de reconnaissance officielle de victime, c'est important. Et qu'ensuite, même si cette plainte elle n'arrive pas à terme, c'est aussi ces chiffres-là qui alertent sur le problème de la prise en compte des LGBT-phobies. Il faut au moins laisser une trace quelque part de ce qui s'est passé. si s'il n'y a pas de trace, s'il n'y a rien, eh bien rien n'a existé. Évidemment, on sait qu'il y a plein de plaintes qui n'aboutissent pas, mais justement aussi ce chiffre-là, il interpelle et il oblige la police à, et la gendarmerie à se réformer sur ce sujet-là.
Et puis moi, j'ai une question pour demain. Donc vous êtes à l'organisation, enfin vous organisez la marche des fiertés, c'est demain hein, au Mans. Elle va ressembler à quoi cette marche des fiertés? On a une année un peu particulière, on a eu 3, 4 mois, presque 5 mois de mouvement contre la réforme des retraites, donc d'énormes mouvements sociaux. On est au cœur là d'un mouvement contre les violences policières. Je rappelle, il y a un rassemblement à 20h pour... Enfin, contre la mort de Naël, est-ce que ces sujets-là vont être évoqués? Enfin, voilà, quelle va être la couleur de la marche des fiertés demain au Mans?
La couleur de la marche des fiertés demain, elle est, elle reste assez neutre sur ces sujets-là, même si les syndicats seront présents sur le village associatif et souhaitent en parler. Après, elle a surtout eu pour volonté de prendre le contre-pied des manifs pour tous qu'il y avait il y a 10 ans, puisque là, on est sur les 10 ans du mariage. Et donc, on a une marche des fiertés qui a été volontairement tournée vers les alliés pour montrer que non, les familles ne sont pas disloquées, que non, la société ne s'est pas effondrée et qu'en fait on a même plutôt pas mal de personnes qui soutiennent. Après, bien évidemment, sur toutes les questions politiques, on est quand même présent. On sait que les personnes LGBT discriminées au sens général, hein, notamment les femmes, sont victimes aussi de cette réforme des retraites. On n'est pas insensible à ça, surtout vu la précarité de la population LGBT.
Est-ce qu'au fil des années, vous observez une pride, une marge de fierté de plus en plus diversifiée? On voit plus en plus de générations différentes et même de milieux sociaux qui viennent.
Oui, on a de plus en plus de personnes hétérosexuelles qui viennent, de personnes alliées. C'est aussi une des raisons hein, pour laquelle on a décidé que cette marche leur était dédiée. On a des parents, enfin on a une tante proche et alliée avec des associations de parents d'élèves aussi qui seront là. Enfin voilà, c'est aussi important de montrer cette évolution. On a pas mal de jeunes et puis la particularité qu'on observe depuis quelques années, c'est que on a aussi en parallèle le festival Plein Champ qui se tient, et en fait on a ces publics qui se mélangent. On a pas mal de gens qui terminent la Pride et qui après vont au festival toujours encore couverts de maquillage et de drapeaux, et donc ça permet aussi de sensibiliser un public qui ne s'autorise pas forcément toujours à aller à la Pride en pensant que c'est un sujet qui les concerne pas. Donc c'est à travailler pour les années à venir.
Ah oui, ça prolonge la Pride dans l'espace et dans le temps quoi.
Complètement, ouais.
Alors, notre émission touche à sa fin. Est-ce qu'on peut rappeler les informations pratiques de l'association Homogène? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où est-ce qu'on peut avoir des informations et les autres éléments à savoir?
Alors, le local se situe 26 avenue du Général de Gaulle, sous la place des Comtes du Maine, à côté du cinéma Les Cinéastes. Il y a un accueil convivial tous les mercredis de 18h à 21h. Un accueil convivial à Pont-Vallin, à la mairie de Pont-Vallin, tous les vendredis soirs de 18h à 21h également. Il y a une cellule d'écoute anonyme gratuite et sans rendez-vous au local d'Homogène au Mans de 17h30 à 19h30 tous les jeudis. Il y a un accueil au planning aussi le mardi soir. Il y a un accueil réservé aux personnes trans le mardi, uniquement personne trans.
À Homogène.
Oui, à Homogène, au local. Quoi d'autre? Ah oui, le numéro de téléphone de l'association, oui. 09 51 44 66 00. Et puis la Pride, eh ben, c'est demain. Rendez-vous à 13h sur la place de la République et défilé à 15h.
Voilà, merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à notre invitation.
Merci.
Merci.
C'est déjà la fin de cette émission en direct des cinéastes du Mans. La projection du film du documentaire de Mediapart « Guet-apens des crimes invisibles » a donc lieu à partir de 20h. Et sinon, vous pouvez le retrouver sur la version abonnée de Mediapart. Je remercie Tiphaine et Bertrand de l'émission Intersection sur Radio Alpa. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci Robin.
Alors, la saison de Radio Alpa touche à sa fin. Est-ce qu'on pourra réécouter Intersection ou est-ce qu'il faudra attendre la rentrée?
Il y a encore un épisode qu'on va faire mardi.
Alors,
et ensuite,
peut-être pas mardi, mais ouais. Il y a plein d'épisodes qu'on a ratés, qu'on a sautés, parce que nous, on a été vachement dans la rue. dans le mouvement social. Du coup, on a raté plein d'épisodes, mais ouais, l'an prochain, on refera ça.
Et puis, on peut vous réécouter évidemment sur radioalpa.com et toutes les plateformes de podcast. Merci à Jean Foucault pour la réalisation technique de cette émission. Cette émission, justement, vous pouvez aussi la réécouter en podcast sur radioalpa.com et toutes les plateformes de podcast. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.
Émission spéciale sur les violences homophobes. En direct des cinéastes, présenté par Robin Hulin de la rédaction et Tiffany Bertrand de l'émission Intersection.